c'est dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de créneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez.
Lu et approuvé. La bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir éveillé. Pas celle que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non. On n'en veut pas et on ne leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
La beauté est sœur de notre quête, tant dans la joie que dans les fêtes funèbres. À 20 ans, le pays d'Ogon m'offrit lenteur et contemplation, ainsi que la langue muette des paysages dont les couleurs invitèrent l'ami peintre à joindre ses pas aux miens. Nous partîmes, habitant de menus cours où le monde entrait à profusion. Il y avait le soleil, la terre et de nombreux visages. Ce qui n'était rien orienta toute une vie. Nous récoltâmes des signes sur de petits carnets, dans ce pays si nu dont je ne suis jamais revenu. Ce livre dit un peu les pierres, la lumière et l'orage, la vie vivante qui file comme une truite.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Sud. Ce soir, nous allons vous lire Petit traité de la marche en saison des pluies, écrit par Joël Vernet aux éditions Fata Morgana.
De frontières.
On ne sait plus si l'on est dans la nuit ou si l'on marche encore dans le jour. Le ciel a basculé. L'orage est sous nos pas. La terre s'entête dans les tremblements fous. Alors que nous devrions avancer à tâtons, nous filons comme des météores. Nous projetons nos traces dans le sable. C'est un signe vers l'avenir, vers tous ceux qui viendront après nous et nous reconnaîtront. D'immenses rochers menacent de nous tomber dessus. Au passage, nous saluons leurs visages de fantômes. Avec politesse, comme il se doit, le corps légèrement incliné en forme de révérence. En effet, l'on doit bien se tenir à l'étranger. C'est la devise des voyageurs. Et nous cherchons la beauté des visages dans le silence des pierres.
Avec quel mot commencer ? Petite voix, à peine petite voix. Ton visage désormais indistinct, ton visage désormais si lointain. Ton corps est cendre, ton corps, et ta joie. Ensemble, ici, autrefois, sur les mêmes chemins. Et ton rire, ton rire.
J'aperçois au loin, dans le brouillard de pluie, le mince filet d'une cascade chutant de la falaise. On dirait que la plaine a un besoin inouï de se désaltérer. Dans quelques heures, le sol sera à nouveau incendié de soleil. La terre mettra le feu à nos sandales, à nos très maigres convictions. C'est fou ce qu'un homme peut endurer pour vivre tout simplement, pour mettre un pas devant l'autre, regarder son semblable, sans devoir baisser la tête, fermer les yeux. C'est fou ce qu'il nous faut de force pour tenir debout.
Ton rire. Je l'écris en marchant, je le hurle, ton rire. Je le crie contre les falaises foudroyées. Il enlève la peau de mon cadavre. Oh, ce n'est qu'une feuille sur la vie retombée, ce n'est qu'une feuille. Mais où sont donc allés mourir tous ces milliards de mots qui nous percent le cœur? Où donc? Où donc? Non. Jamais aucune voix. Aucune. L'espèce habite la mangeoire des conversations. Ou un homme? Ou infime silhouette? On se dresse un peu dans le vent des roseaux. Pardonne-moi. Relève la tête, juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour passer la barrière de l'horizon. Ton rire, ton cri, notre marteau, notre enclume. Écoute, je ne veux pas faire de bruit, à peine un clapotis sur les eaux. Tu te souviens ces ricochets dans les plis de la rivière? Oui, je suis prêt à vivre la tête dans la vase.
Je marche avec un autre frère, car les tragédies minuscules sont les plus belles épopées. On ne marche pas. On attend et on cherche un chemin. Des yeux. Allongés sur un tas de bambous qui pourrait ressembler à un lit. Du cœur. On attend, à la dérobée, le chemin introuvable faisant de nous des égarés. On s'est mis vraiment dans de beaux draps. On éclate de rire en brûlant le pétrole de notre petit réchaud, tandis qu'un compagnon déballe son matériel de pigments et de papier, comme pour immortaliser la scène tout à fait imprévue. On palabre, on murmure. C'est presque de la colère qui nous tord le nez dans la poussière. On attend. Ça, c'est le point fort du voyage, avoir sa réserve de patience dans le sang. Sinon, on peut rester chez soi et accomplir le tour de sa chambre. Bien sûr, à un moment donné, la parole se brise et on reprend la marche. On peut marcher par tous les temps, sous la neige ou un soleil torride, quand on sent l'orage monter dans les veines ou le vent s'arrêter dans les palmes. On doit marcher, ce qui n'est jamais une contrainte, non plus le désir d'engloutir des continents. Quelquefois, on avance sans bouger. C'est alors le sommet des voyages. Les mots viennent cogner contre vos tempes. Rien de tel qui ne soit d'une telle fraîcheur. Les mots dans le corps marchant, écrivant les phrases, les arrachant à la terre, les lançant dans l'azur, les mélangeant à tout, aux arbres, aux eaux, aux lumières. Assis sur une pierre, regardant la terre entre nos jambes, les fourmis dévoreuses d'âmes. Puis la pluie tombe à nouveau, comme de la neige, en hiver, ici, dans nos plaines et nos vallées, nos très hautes montagnes où le brouillard retient les villages dans les ténèbres. Très vite, on a de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Très vite, les troupeaux deviennent fous. On les regarde s'éteindre à l'horizon comme des nuages en feu. Ils balaient vers nous toute la poussière de leur pays. On voit des étincelles sous leurs sabots quand la tempête s'atténue, car il s'agit de tempête dans la saison des pluies. Quand on marche, le tam-tam du cœur se sent presque obligé de décrire. Paysage, ô beau paysage. Décrire quand c'est le songe que nous voulons. En effet, marcher se devrait être inventé. Conquérir ce qui nous manque cruellement, le soleil, la rosée sur les pierres, la vastitude, les sentes inconnues, de neuves rêveries. Marcher, ce devrait être trouver l'autre vie. Décrire, quelle rude tâche. Dessiner, par exemple, le roman d'une fourmi qui passe entre vos jambes, ou le balai de la vipère entre les chaumes et les poutres d'une case, dans cette obscurité où vous ne sentirez même pas le bruit mortel de sa piqûre. Il y a quelques semaines, on a évacué, d'ici, de ce gourbier à l'abandon, un jeune moribond auquel elle a tendu son piège. On l'a retrouvé mort, au matin, sur le seuil de la maison, ses chaussures flottant sous les eaux torrentielles. Les charognards commençaient déjà à s'occuper de lui. Des lambeaux de chair servaient d'ornement aux petites murailles. Nous avons frissonné en allumant notre réchaud dans la pénombre de la case, tout en écoutant la musique de la pluie au dehors qui se déversait en torrent. plus qu'un ciel, terre où se sont noyés les visages. Nous marchons à travers des rizières inondées par l'orage. Le sentiment d'avoir de la boue dans la bouche car nos chevilles pataugent dans la terre glaise. De rares arbres sont d'une solitude à faire pleurer. Un dieu mauvais les a repeints de gris, puis les a revêtus de tristesse. Nos petites mares creusent autour de leur tronc. On marche et on marche de l'insupportable. Le froid et aucune présence humaine lorsque nous contournons de maigres villages où les maisons ne se sont pas effondrées par miracle. Aucun âne, pas l'ombre d'un animal. Dans une cour, un boubou mis à sécher gifle les murs et d'une couleur bleue passe à l'ocre. Des pylons sont renversés, des fourneaux de métal traînent au beau milieu des cours. On croirait qu'une armée est passée à bride abattue et a effacé toute vie du paysage. Pas un cri, mais déjà l'amorce d'un silence légendaire. Le froid, donc. L'humidité au plus profond des eaux et les chaussures qui recrachent de la boue à sculpter. L'eau contre la peau et cette lumière des ténèbres qui nous fait plisser les yeux. On attend comme un prochain bombardement, que le silence vole en éclats et nous avec. C'est un voyage qui dure depuis plus de 25 ans. C'est un voyage dont nous n'avons jamais connu le retour. Le sac en bandoulière essore son contenu. L'encre des carnets devient de l'aquarelle. Les allumettes tombent en décrépitude et tous les vermisseaux du sous-sol s'échinent à goûter à l'air libre. On entend un cri en provenance du village le plus proche. Est-ce l'ultime plainte d'un mort ou l'annonce d'une nouvelle naissance ? Non, rien de tout cela. Il s'agit d'un âne. La foudre, à l'instant, lui a jeté un sort. Il galope. Il bondit, se jette contre les arbres, glisse, dérape et s'effondre. Il est devenu fou et cherche un peu de calme dans les flaques. Maintenant, à qui le tour ? Qui sera la proie de la colère des dieux invisibles ? La nature paraît pétrifiée dans le silence des pierres. Nous glissons lentement sur le fleuve des morts et croisons des embarcations échouées, de nombreux êtres vivants, silencieux, occupés à des tâches mystérieuses, sur les berges où fument leurs campements, où dorment paisiblement des troupeaux de bêtes harassées. Au fond, nous ressemblons à cet âne sous ce ciel de plomb, mais nous ne crions pas, notre cri s'éteignant sur nos lèvres, alimentant comme un feu chaque mot de chaque phrase. Nous réservons nos paroles dernières aux dieux absents qui n'ont jamais tendu leurs mains pour ce que nous leur demandions. Nous réservons le sang de nos phrases à la beauté des corps aimés dans le silence de chambres blanches où nous vivions l'oubli, la solitude et l'exil. Aujourd'hui, nous rêvons autour de feux millénaires. Nous veillons sur les terrasses du sud, amoureux de la nuit et des lampes qui dansent un peu partout dans le jour. Nos corps sentent le sol, et nos doigts ont conservé cette odeur de paille et de cuisine forte. Nous marchons avant tout dans ce dédale de nous-mêmes, montant et descendant cette échelle minuscule qui part du profond de la terre pour se dresser vers un ciel improbable. Sur les seuils des maisons, de grandes calebasses nous attendent afin d'apaiser notre soif. Et lorsque nous nous penchons au-dessus de leurs eaux immobiles, apparaissent nos bien curieux visages, semblant jaillir d'un autre temps, d'une époque barbare où la beauté s'apparentait à la sauvagerie. D'innombrables poules picorent dans le sable. Le sang frais des poussins sèche sur les pierres. Leur duvet jaune fait figure d'ornement et leur mère vient goûter les cadavres. La nuit, on marche encore dans notre tête, les yeux rivés sur les étoiles. Une brise légère, juste un peu de vent, attise les branches de l'arbre dont le rôle serait d'ombrager la terrasse sur laquelle nous dormons. Derrière ces feuilles se répand la lumière blanchâtre d'une pleine lune exceptionnelle, et l'on peut admirer la danse des insectes, ceux en particulier qui vous donnent la fièvre en guise de bienvenue. On descend vers la plaine à travers un éboulis de rochers. On jette là, dans ce fatras, tous les dés de notre vie. Les corps dansent sur les pierres et la lumière aveuglante obscurcit le chemin. La sueur coule sur tous les visages rencontrés. Il faut dire que parfois, sur une sente aussi abrupte, un homme peut porter un vélomoteur sur la tête. Un homme peut, en effet, vouloir se casser le cou. Au pied de la falaise, nos pieds sculptent leurs traces dans la boue et nous rêvons, les regards tournés vers le ciel, aux dernières sépultures sous le soleil. En contrebas de Beni Mato, une sorte de jungle jaillit des rochers, une oasis dans ce désert de pierre. Des centaines d'oiseaux jacassent dans les falaises, tournoient lentement au-dessus du vide. J'imagine des serpents guettant notre arrivée. Ici, pourtant, c'est un havre dans la chaleur torride du plateau. Un mince filet d'eau fraîche coule de la bouche des pierres, et dans la vasque d'une roche, nous pouvons baigner à moitié nos visages, asperger nos corps pétris de poussière et de sueur. Humble autel de granit pour nos prières sauvages. Puis nous laissons mourir dans cette eau le murmure d'un silence deux fois millénaire. En un instant, le corps penché, je revois toute la trajectoire de ma vie, tendue vers la vie libre, celle des solitaires, celle des insurgés. Un jour, bien plus tard, notre voix quittera les ténèbres, remontera en pleine lumière. Ce sera dans un autre siècle, ou ce sera jamais. Dans une nuit où nous ne marcherons plus, où nous aurons cessé de voir et d'écouter. Mais qu'importe, nous aurons dessiné quelques traces lointaines dans la poussière de cette vie.
Les enfants se sont assis par terre et ont regardé cet inconnu qui leur a parlé de la mer et des oiseaux qui s'envolent quand les bateaux sont revenus. Il leur a raconté l'histoire d'un marin qui est parti un soir chercher des rives inconnues, remplir son cœur de paysages, de grands ports et de longues plages. Les oiseaux se sont envolés quand un jour il est revenu. Il n'avait vu que la mer, les paysages, les barques et les pêcheurs. Il n'avait rien découvert. Parfois, pris dans des courants d'air, pendant que s'écoulaient les heures, il voyait les oiseaux s'envoler lorsqu'au matin ils reviendraient. Les enfants écoutaient l'histoire assis autour du tableau noir, en observant le conteur, comme s'il eût été un dieu, descendu tout droit du ciel bleu pour leur apporter du bonheur, avec des phrases, avec des mots, qui se suivent sans se ressembler, même quand il parle des oiseaux lorsque le marin reviendrait. L'homme avait fini son histoire. Dans le silence, il s'est levé, a regardé le tableau noir, souri aux gosses émerveillés qui l'ont contemplé s'en aller. Et pas un n'a osé parler dans ce silence parfait où tout le monde rêvait encore aux longues plages et aux grands ports et aux oiseaux qui s'envolaient lorsque les bateaux revenaient. Dérisoire. C'est venu d'un coup, sans prévenir. Un sentiment étrange qui fait qu'on y pense, un petit peu gauche. Simplement une phrase prononcée d'un coup. Je m'en vais d'ici habiter ailleurs. Dis, ce n'est pas loin, on pourra s'écrire. Tu viendras me voir. Dis, et de loin en loin, on pourra se dire des mots dérisoires. C'est dans ces moments que l'on s'aperçoit qu'il suffit d'un seul qui parte d'ici pour se sentir seul. Et tous les mots ne peuvent rien contre ce sentiment de nostalgie, de solitude, de désabusement, de tout ce qui restait à faire, de tout ce qui restait à voir. Non, ce n'est rien. Dis, ce n'est pas loin. Ça sert à rien d'être comme ça. Dis, tu verras bien, ce n'est pas loin, on s'écrira. Mais on n'y peut rien. Ça fait comme si quelque chose cessait, comme un bout de vie qui allait s'achever. La page tournée, plus que des souvenirs de choses passées. La fin d'une histoire, la fin d'une enfance, la fin dérisoire pour juste une absence. Dis, ça ne fait rien, ça change rien, on s'écrira. Dis, tu verras bien, ce n'est pas loin, on s'écrira. On sent bien, on le pressent, que nous allons nous oublier, plus ou moins, dans la vie qui va. Des feuilles mortes et puis du vent, et des souvenirs qui s'envolent, moment définitivement passé. On gardera juste un visage et des souvenirs agréables. Mais le destin a tout cassé. Mais le destin a tout gâché. Pourquoi ça s'arrête? J'ai l'air un peu bête, je sais. Tu me dis bien sûr que l'on s'écrira, c'est sûr. Mais que peut-on contre tout ça? Qu'est-ce face à ce naufrage qui s'appelle fatalité, qui fait la vie et la défait. On reprendra chacun sa vie, on répondra à nos courriers, et puis on oubliera de répondre, et puis on n'osera plus s'écrire. Mais que peut-on contre tout ça? Qui est-on face à ce naufrage qui s'appelle fatalité, qui fait la vie et la défait? Essayons d'empêcher cela. Ce serait mieux, tu ne trouves pas? Revoyons-nous dès qu'on pourra. L'homme n'est qu'un courant d'air. Être, puis ne plus être. C'est déprimant d'être si peu. Rien qu'un silence qui nous fait naître et qui nous éteint peu à peu. Un moment qu'on n'a pas prévu, le seul qu'on ne peut pas prévoir, viendra nous prendre sans qu'on l'ait cru, et on ne pourra pas le voir. Être ici, demain n'être plus. Quelques années dans l'univers, et c'est si peu d'avoir vécu. L'homme n'est qu'un courant d'air. Comment concevoir le néant, ce qu'on était, ce qu'on sera? La récréation du vivant n'est qu'une étape dans l'au-delà. Être si peu longtemps, puis n'être rien dans le néant. Comment concevoir le vivant, la parenthèse dans ce néant? Dire que ces murs nous survivront, que les étoiles resteront là, quand les années sont en millions, nous on surnage. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de croire en soi, de croire en l'homme, en son pouvoir, quand une simple étoile dans le noir éteindra le dernier vivant? Penser à ça dans le tumulte, et se dire qu'on a d'autre choix que savourer chaque minute, si peu longtemps que l'on sera. Être ici, demain n'être plus. Quelques années dans l'univers, et c'est si peu d'avoir vécu. L'homme n'est qu'un courant d'air.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, l'émission Lu et approuvé touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié les lectures. Vous pouvez nous retrouver chaque mercredi à partir de 23h30 ou un petit peu après sur Canal Sud. Ce soir, nous vous avons lu en première partie d'émission Petit traité de la marche en saison des pluies de Joël Vernet, paru aux éditions Fata Morgana. Et en deuxième partie d'émission,
des poèmes de Mathias Vincenot. Mathias Vincenot est né en janvier 81. Il a écrit 9 recueils de poèmes publiés et des poèmes parus en revue et en anthologie. Les poèmes lus ce soir ont été tirés de ses 2 premiers ouvrages, écrits à l'âge de 17 ans, Un autre ailleurs et Un détour vers le rêve.
Voilà, vous pouvez retrouver toutes les références